l'éducation. Est-ce que moi, ça me permet de revisiter mon sujet avec des entrées que je n'avais pas forcément l'habitude d'avoir. Moi, en fait, je travaille sur une nébuleuse d'acteurs privés, qu'ils soient marchands ou non marchands, qui arrive dans la fabrique de la ville autour d'un mot d'ordre qui est l'innovation sociale. Donc ils vont se définir par tout un tas de termes, entrepreneurs sociaux, acteurs des communs, de l'économie collaborative, du changement. Et ce qu'ils ont en commun, c'est de mobiliser des approches, des modalités d'action entrepreneuriales, et en même temps de revendiquer de porter un projet de transformation sociale. Ils profitent d'un développement de la commande publique sur lequel je reviendrai, mais qui passe par les appels à projets très médiatisés comme réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer la métropole et toutes les déclinaisons qui ont pu s'en suivre. Et ces appels à projets, en fait, ils ont en commun de se situer en dehors du cadre réglementaire de la commande publique. Donc, ça se présente comme des mises en compétition de consortiums avec une très forte demande en innovation dans les projets urbains. À cette occasion, ces acteurs, ils essaient de se positionner en revendiquant des nouvelles méthodologies de conduite de projet. Des méthodologies qui vont être dites créatives, collaboratives, issues du design. Ils vont parler de postures de co-construction, etc. Et ils vont souvent avoir un discours très axé sur l'action, où en gros, ils vont prôner une approche où ils co-construisent en faisant. Donc, ils se distinguent un peu de ce qui pouvait se faire dans la participation traditionnels, eux, ils vont impliquer des acteurs en faisant. Voilà, donc ça se traduit du coup par des productions de nouvelles formes d'occupation de l'espace bâti sur le modèle des tiers-lieux, c'est-à-dire un lieu un peu hybride dans lequel plusieurs activités sont possibles et qui vont être temporaires ou plus ou moins permanents. Donc ça pose un peu le cadre de ce que j'étudie, vous voyez que les contours sont flous. Et les notions de transition et d'ingénierie. Alors, est-ce que on les notions de transition et ingénierie, elles sont assez absentes dans le discours des acteurs que j'étudie. Sur l'ingénierie. Moi, je l'ai un petit peu approché en réfléchissant notamment à l'instrumentation, c'est-à-dire comment ils s'équipent et comment ils créent des outils, des procédures, etc., pour répondre à la nouvelle commande publique. Sur la transition, il y a un discours qui est assez éloigné de l'écologie, mais sur la transformation des modèles, des modèles socio-économiques dans les projets urbains. Donc il y a l'idée de transformer le mode de financement d'un projet et sa gouvernance en l'ouvrant à de nouveaux acteurs. Donc voilà, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est d'analyser cette rencontre entre l'évolution de la commande publique et la construction d'une ingénierie en innovation sociale pour y répondre. Et puis, cette proposition de participer à une transformation un peu plus vaste des modèles socio-économiques des projets urbains. Alors, du coup, j'ai fait trop de diapositives. Mon enquête, elle s'appuie sur... elle se place dans le cadre d'un contrat CIFRE, dans une structure qui se définissait comme un think and do tank de l'innovation sociale. Voilà, ça fait toujours rire quand je le dis. Du coup, je vais détailler pourquoi. Donc, think, en référence au think tank, donc en gros, think tank pour montrer qu'on réfléchit, et do tank, qu'on agit aussi. Donc, voilà, il y a cette double dimension qui est portée. Donc, en fait, c'est une structure qui se propose d'expérimenter et de développer des solutions innovantes. elle cherche dans un premier temps plutôt à accompagner des territoires, puis progressivement elle va se positionner aussi sur l'accompagnement d'organisations. Et elle se positionne comme généraliste et donc se propose d'intervenir dans une grande diversité de secteurs, dont l'urbanisme via ma présence, l'agriculture via la présence d'une autre doctorante CIFRE, ingénieure agronome, santé, travail, genre en fait via à chaque fois les profils recrutés un peu. On peut résumer ça comme ça. C'est une structure qui a démarré via un financement d'une mutuelle qui souhaitait investir justement dans ce marché un peu émergent de l'innovation sociale et qui souhaitait avoir une structure un peu qui va découvrir les nouveaux marchés, éventuellement l'aider à proposer des nouveaux services, etc. Du coup, dans ma présentation, je me concentrerai sur sa stratégie et ses activités en urbanisme, parce que, bah, évidemment, du coup, c'était extrêmement varié. Le matériau récolté, donc j'étais en observation participante, même en participante très active dans la vie de l'entreprise. Du coup, j'ai du matériau récolté à plusieurs niveaux. Déjà, la participation à l'élaboration du projet et de la stratégie de l'entreprise, puisque je suis arrivée au démarrage de l'entreprise. Et donc, j'ai participé à tous les ateliers internes, réunions, séminaires, etc., pour redéfinir progressivement le projet. J'ai participé à deux grands projets sur les thématiques urbaines, dont j'étais chef de projet à chaque fois. Donc, Réinventer Paris est un programme de réflexion sur les tiers-lieux. J'ai participé aussi à la construction de l'offre urbaine de l'entreprise, c'est-à-dire répondre aux appels d'offres, faire une veille sur les concurrents, etc. Et puis, je les ai notamment aidés à mieux cibler en fait sur quoi ils répondaient. Et puis la participation aux activités de valorisation scientifique, puisque la structure avait pour ambition d'être productrice de recherche et donc d'animer des séminaires, de faire des interventions, de faire des articles. Ils ont créé une revue, etc. Donc voilà, ça c'est un peu les quatre grands types de matériaux sur lesquels je m'appuie. Peut-être juste sur les conditions d'enquête CIFRE, il y a déjà beaucoup de choses là-dessus. Peut-être juste dire que moi, ça s'est passé dans un contexte un peu compliqué avec des conflits très très importants, mais qui sont assez révélateurs des difficultés de l'entreprise à se positionner et surtout d'un glissement progressif du militantisme à vraiment l'entrepreneurialisme. Donc voilà, ces deux, enfin les conflits qui ont été suscités m'ont permis aussi de comprendre ces décalages progressifs. Du coup, ce que je vous propose, c'est de reprendre un peu la trajectoire de l'entreprise sur ces 3 ans. Autour de la construction de tout leur registre de justification sur la transition économique et sociale, et puis sur comment ils vont tenter de se positionner comme un ensemblier qui viendrait chapeauter tous les acteurs traditionnels de la fabrique de la ville pour permettre de faire émerger l'innovation sociale. Alors, quelques petits éléments de contexte sur lesquels je m'appuie pour commencer. Il y a déjà les reconfigurations récentes de la fabrique de la ville qui ont été étudiées notamment par Bio et Tapi, avec la structuration du rapport maîtrise d'ouvrage public, maîtrise d'œuvre privée dans les années 80, et puis dans les années 2000, le développement de la financiarisation de la production urbaine et deux injonctions dans les projets qui sont la durabilité et la participation. Alors moi j'ai une hypothèse, je suis peut-être pas la seule à la voir, c'est que la crise financière en 2009 a participé à vraiment reconfigurer cette organisation, notamment par l'arrêt de tous les grands projets qui proposaient des projets hyper technologisés dans le modèle de la Smart Cities. Et puis aussi par le retour un peu critique sur les premières grandes opérations, donc on en parlait ce midi, qui est une fois que les premiers bâtiments avec des promesses technologiques ont été sortis et ont pu être évalués, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien et se posait la question rôle du promoteur. Est-ce qu'il devait revenir? Est-ce qu'il devait faire le service après-vente, entre guillemets, de ce qu'il avait promis via ces technologies? Donc ces deux contextes ont créé à la fois le développement d'une commande publique en innovation sociale, plutôt, et puis une stratégie de la part des opérateurs immobiliers de se positionner sur quelque chose de plus flou, qui est l'innovation sociale. Et l'innovation sociale, elle s'est construite dans le cadre de la stratégie de Lisbonne de l'Union européenne. Donc c'est l'idée que l'innovation sociale va permettre de répondre à la crise financière et économique en créant des nouveaux marchés, donc en favorisant la relance. Et puis va permettre aussi de passer par contrat en se reposant sur des acteurs privés qui agirait ou créerait de la valeur sociale. Alors, là, j'essaye de tracer un peu ce qui est assez complexe, les généalogies des acteurs que j'étudie, de qui ils s'inspirent. Et ils s'inspirent d'une espèce de nébuleuse assez protéiforme, qui a été défini il n'y a pas si longtemps par Michel Lallemand, qui parle d'un monde social des makers, c'est-à-dire un monde social qui agglomérerait tout un tas d'acteurs assez disparates, qui viennent de champs professionnels différents, mais qui vont proposer une réorganisation du rapport au travail et une proposition d'action, c'est-à-dire qu'il y a tout un discours autour du faire et du fabriquer soi-même, etc. Donc ça va rassembler tout un tas d'acteurs sous cette dénomination de makers. Alors cette approche, elle permet de comprendre comment mon entreprise va aller chercher des inspirations dans le monde du hacking, dans le monde des mouvements sociaux urbains, dans le monde de l'ESS, et va essayer de les agglomérer et d'en faire une offre. Par contre, elle permet peu une perspective critique, donc moi je vais plutôt parler d'entrepreneur militant pour désigner ma structure au sens de entrepreneur de morale, donc qui va agir pour diffuser et faire adopter ces normes, et puis comme une oxymore pour montrer les tensions structurantes de cet acteur et des autres acteurs avec lesquels, enfin, de la nébuleuse dans laquelle il se situe, les tensions structurantes entre une orientation militante alternative et une orientation d'entrée dans le marché et donc plus entrepreneuriale. Donc, pour montrer un peu ce qu'ils vont aller chercher dans les différents mondes militants et qu'ils vont essayer de réintroduire après en offre, il va y avoir une récupération des principes du mouvement des hackers. Donc, en gros, le mouvement du hacking, c'est dans les années 60-70, c'est les mouvements contre-culturels californien qui propose une éthique du hacking, c'est-à-dire des nouvelles modalités de prise de décision, de production de données, etc. Et surtout le bidouillage informatique. Donc une espèce d'ouverture à l'expérimentation avec une posture militante pour un accès au savoir-faire technique. Donc l'idée, c'est que chacun puisse venir bricoler ce qu'il veut et qu'on sorte des expertises très techniques pour les ouvrir. Ensuite, on a les mouvements sociaux urbains qui vont, pareil, à la fin des années 70, remettre un peu en cause les pratiques des architectes en proposant d'intégrer beaucoup plus la participation habitante. Donc eux, ils vont aussi participer à cette volonté de démocratisation des savoirs, et puis un droit à l'expérimentation, un droit à essayer et à impliquer des nouvelles parties prenantes dans le projet. Et puis on a le troisième secteur qui est le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui vont contribuer à créer des modèles économiques alternatifs. C'est-à-dire qu'on va viser non plus... l'importance des entreprises coopératives va non plus être mise sur la finalité, mais sur les processus, donc la manière de travailler. Et donc c'est de ça que vont s'inspirer mes entrepreneurs militants. Voilà. Donc ça va être... Ça va donner trois principes un peu organisateurs de ma structure qui vont à la fois contribuer à la construire, mais qui vont aussi être au cœur de conflits qui ont amené à l'explosion de la structure. Comment ça se passe? En fait, ils vont proposer ces trois grands principes, ils vont les décliner un capital militant, une caution scientifique et puis une rationalisation managériale. C'est-à-dire qu'on va passer au début d'une valorisation du militantisme des salariés à petit à petit la transformation de ce capital militant en un produit. Donc dans les CV, on va vendre notre militantisme, notre capacité à mettre en réseau avec des associations, avec des acteurs alternatifs, puis petit à petit effacer toute la partie critique de ce discours militant. La deuxième chose, c'est la recherche qui va être utilisée au début comme quelque chose de très ouvert qui va permettre de proposer des recherches-actions, d'expérimenter, etc., avec un refus de la mesure et de l'évaluation de l'innovation sociale. Puis petit à petit, on va glisser vers une expertise avec des livrables et des objectifs beaucoup plus mesurables. Et puis le troisième grand principe qui est le management, où au début, ce qui est proposé, c'est un modèle de gouvernance de la structure sous la forme d'une coopérative très horizontale avec une faible hiérarchie, et puis où progressivement on va passer à une start-up, c'est-à-dire qui en reprend des codes et des manières de se présenter, très hiérarchisée avec trois niveaux dans une structure de 15 personnes et avec de nombreux instruments de contrôle du temps passé, etc. Voilà, donc ça c'est un peu le premier glissement que j'ai pu observer dans cette tentative de proposer une transition sociale qui finalement a plutôt échoué. Et la deuxième chose, j'ai pas regardé à quel moment j'avais commencé.
Là ça fait un peu plus de 20 minutes que tu parles.
D'accord. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est comment, via les appels à projets type Réinventer Paris, s'ouvre une possibilité pour ces acteurs pour s'insérer dans le marché urbain. Donc Réinventer Paris, c'est sorti en 2014 et C'est un cas, c'est un appel assez particulier qui va faire école. Donc moi, ce que je propose, c'est de l'analyser sous un angle qui a déjà été étudié. C'est l'appel à compétences par Viviane Claude. C'est-à-dire que on va créer une commande publique pour élaborer des nouveaux savoirs et puis éventuellement faire bouger les rapports des acteurs qui fabriquent la vie. Réinventer Paris, ça permet en fait de sortir de la commande publique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le marché public, on est dans un appel à projet où on demande à des consortiums de candidater pour acquérir le bien, proposer une programmation, financer le projet, le réaliser et assurer son exploitation future. Donc on sort d'un rapport maîtrise d'ouvrage public, maîtrise d'œuvre privée, mais la mairie garde un contrôle sur ce qui va être construit puisqu'elle vend ses terrains sous condition d'un projet, de la proposition d'un projet pertinent. Donc ça, ça laisse, ça ouvre une grande place aux investisseurs privés et ça ouvre une commande assez obscure sur l'innovation sociale dans les projets urbains. Alors la demande, c'est de faire émerger de nouveaux usages. Ça, c'est un terme qui va beaucoup revenir. Et j'ai compris très récemment ce qui était sous-entendu par ces nouveaux usages. En fait, parler de nouveaux usages dans ce règlement, c'est pour permettre de proposer, en gros, des nouveaux services émergents, donc qui ne vont pas avoir un marché consolidé, donc par exemple les espaces de coworking, soit des services avec des formes de montage juridique innovant, justement. Donc ça va être, une cafétéria solidaire qui va recruter des personnes en difficulté, etc. En tout cas, le but dans cette commande, c'est de permettre ça, de permettre de faire émerger des services non consolidés, et ceci en faisant évoluer le jeu d'acteurs, donc en faisant intervenir de nouveaux acteurs, et notamment en faisant arriver de nombreux acteurs bien plus en amont que d'habitude. Donc ça donne un rôle plus important à la maîtrise d'ouvrage privé, à condition qu'elle joue ce jeu, c'est-à-dire qu'elle accepte de faire évoluer ses propositions à la fois dans la programmation et à la fois sur une réflexion sur l'aval du bâtiment, c'est-à-dire dans la gestion et la future exploitation des lieux. Donc on a, après Réinventer Paris, toute une déclinaison d'appel à projet. Bon, je propose une typologie, mais qui n'est pas encore stabilisée. Mais en gros, on a les projets les plus importants qui sont Réinventer Paris, où on a une cession immobilière, donc avec une transaction financière extrêmement importante. Les appels à projets d'occupation temporaire et de préfiguration qui viennent combler un vide pendant la reconversion d'un site, donc pendant le temps de conception et de chantier d'un projet de réaménagement, on va proposer une occupation temporaire pour faire vivre l'endroit et éventuellement préfigurer des nouveaux services. Il va y avoir aussi l'appel à projet d'occupation de l'espace public, temporaire ou non, la plupart du temps temporaire. Et puis, ce que j'ai pu constater dans les dernières années dans ma structure, c'est que la commande publique classique va également s'en inspirer. Et on a pu repérer tout un tas d'appels d'offres assez flous, avec une demande d'innovation sociale, mais sans tellement savoir ce qu'ils attendent, que ce soit sur la manière de conduire le projet ou sur la sortie d'un lieu d'innovation. Voilà, donc on a quelque chose comme ça qui sort. Je vois pas, du coup, 15 minutes. Alors ça ouvre pour les entrepreneurs militants, ceux que j'étudie, deux types de marchés. c'est-à-dire créer et animer des communautés épistémiques, c'est-à-dire qu'ils vont, il va y avoir une demande d'animation de ces nouvelles coalitions d'acteurs, avec déjà ramener des acteurs nouveaux dans le projet urbain, mais également travailler sur comment ils peuvent travailler ensemble, trouver un vocabulaire commun, etc. Il y a la deuxième chose qui est qui a été étudiée aux États-Unis sur les consultants en affaires publiques par Walker, qui parle de grassroots for hiring, donc des mobilisations à louer, c'est-à-dire susciter des mobilisations citoyennes pour venir adhérer et comment soutenir les propositions des entrepreneurs. Alors, les acteurs de l'innovation sociale, on va avoir un peu deux stratégies face à ça. Il y a une première stratégie qui va être de normaliser des pratiques déviantes qui étaient déjà existantes, enfin dites déviantes, c'est-à-dire dans les friches, dans les squats, etc. Petit à petit, contractualiser, lisser un peu ces lieux pour en faire des lieux de service, des lieux de préfiguration de future reconversion. Donc là, on a le cas emblématique, c'est les grands voisins, mais il y a la friche Belle de Mai, enfin, il y a tout un tas de lieux historiques qui sont en train de petit à petit rentrer dans une relation contractuelle et se lisser un peu dans leur approche. Et puis il y a la stratégie qui va chercher à avoir ma structure, être ensemble lié, c'est-à-dire chercher à être vraiment l'acteur pivot et organisateur de l'innovation sociale dans le projet urbain. Alors, je spoil un peu, ça va rater, et je vais vous montrer comment ça s'est passé en gros en trois étapes. Comment on est passé d'une position où on propose de coordonner à une proposition d'intermédiation où on essaie de rester quand même un acteur important, pour finir dans une position de conseil où on vient plutôt en sous-traitance des grands acteurs de la fabrique de la ville. Donc la coordination, il y avait un premier projet avant Réinventer Paris, c'était le projet à l'origine de la fabrique qui était de construire ce qu'ils appelaient des territoires innovants. C'est-à-dire, l'idée était de construire une structure juridique coopérative, donc les SIC, qui mêlerait acteurs publics, privés, des citoyens, des entrepreneurs, etc., pour investir de manière collective dans des projets de services innovants. Et l'idée, c'était d'accompagner de la structuration de ces alliances d'acteurs à la sortie des services innovants tout le long de ces projets, en proposant de faire de la mobilisation citoyenne tout au long du processus pour faire adhérer, etc. Et puis, il y avait une idée un peu floue que ces structures coopératives se matérialisent dans des lieux de collaboration. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi ? Parce que pour faire émerger cette commande, il y a un travail amont qui est énormissime pour aller chercher chaque acteur, les convaincre, construire un projet collectif. Et une fois que le projet collectif existe, ils n'ont plus besoin de nous, donc ils ne vont pas nous payer. Et donc toute cette phase de montage, il n'avait pas été prévu de la faire payer. Donc, ça a raté. Ensuite, ils vont chercher à se poser en plus dans l'intermédiation en se disant, il y a une évolution de la commande publique, donc Réinventer Paris, etc. C'est 2014-2015, il y a tout un tas d'appels à projets, y compris d'acteurs privés qui cherchent à se positionner sur l'innovation sociale. Donc là, ils cherchent plutôt à être dans l'intermédiation, c'est-à-dire mettre en réseau des potentiels financeurs, qu'ils soient privés ou publics, avec des acteurs qui vont leur permettre d'innover parce qu'ils vont proposer des nouveaux types de services. Là-dessus, ils construisent deux outils beaucoup plus identifiés, donc le design thinking, qui est une procédure d'innovation participative. Donc on passe d'une logique de mobilisation un peu générale à un outil qui permet d'impliquer des profanes dans la conception du projet et qui arrive à la production d'un service testé par les usagers. 5-8. Et la création d'une configuration socio-spatiale qui sont les tiers-lieux, qui sont en gros des lieux qui permettent de mélanger plusieurs types d'acteurs et de mélanger plusieurs styles d'activités. Donc ces deux outils deviennent un peu ce que vendent les entrepreneuries militants en disant, bah, nous, on crée des conditions qui permettent de faire émerger l'innovation sociale. Et puis, donc oui, pardon, ça ne fonctionne pas. Parce que pendant le temps qu'ils ont perdu en amont, en fait, avec tous les grands appels à projets, etc., il y a déjà eu cette mise en lien des acteurs. Et il y a déjà eu d'autres acteurs, comme Plateau Urbain, Yes We Camp, etc., qui ont fait leurs preuves et qui n'ont plus besoin d'être mis en réseau, qui ont déjà construit des tiers-lieux, qui ont déjà construit des outils de participation citoyenne. Donc, on arrive un peu après la bataille. Et puis la dernière stratégie, ça va être là de se repositionner sur le conseil, d'interroger la commande existante, c'est-à-dire d'interroger de commencer à répondre à des appels d'offres un peu flous dont je vous parlais tout à l'heure, qui sortent en 2016-2017. Des appels d'offres souvent assez ouverts, assez prospectifs sur imaginer de l'innovation sociale autour d'un projet. Et donc là, on va passer à une posture d'expertise où on va se présenter comme garant de l'innovation sociale. Toujours avec cette mise en réseau. Ah mince, non, c'est. Oui, bon, j'ai pas. C'est pas les bons noms. Donc, pardon, c'est pas les bons développements. Donc, on va se présenter comme garant, d'abord en essayant d'être mandataire de groupements qui répondent, puis petit à petit, comme l'entreprise n'arrive pas du tout à se positionner comme mandataire, à se positionner comme sous-traitant proposant une expertise scientifique, des outils très identifiés, etc., qui vont permettre de donner une coloration d'innovation sociale au projet. Donc finalement, on a vraiment là une stratégie de ces entrepreneurs militants qui voulaient profiter de ces appels à compétences pour se positionner comme grand ensemblier de la fabrication de la ville, et qui est par échecs successifs aboutit finalement à être un sous-traitant parmi d'autres qui vient plutôt apporter une petite valeur ajoutée et cautionner les expertises traditionnelles existantes.